Chapitre 17. En approchant de Richard, sa démarche si légère qu'on eût dit qu'elle glissait sur le sol, Shota foudroya Nietzsche du regard. Le sourcier se demanda pourquoi la voyante n'avait pas expédié la magicienne en haut des marches pour tenir compagnie à Zed et Djebra, et il trouva assez vite la réponse. Nietzsche n'aurait pas obéi, et Shota s'en doutait. Avec tous les ennuis qu'il avait déjà sur les bras, Richard se félicita que les deux femmes aient évité un affrontement ouvert. Quand on était au bord de la catastrophe, inutile d'en rajouter en s'étripant entre membres du même camp. Jetant un coup d'œil, le sourcier vit qu'Anna et Nathan, comme Djebra, se rapprochaient de Zed. Lorsque la pitié fut à sa hauteur, le vieil homme lui passa un bras autour des épaules et lui murmura des paroles de réconfort. Mais son regard resta rivé sur Richard. En bon grand-père, Zed veillait toujours sur son petit-fils, surtout quand il était en compagnie d'une femme aussi rusée et dangereuse que Shota. Si quelqu'un savait de quoi elle était capable, ce devait bien être le premier sorcier. Contrairement à Richard, qui la croyait loyale à leur cause, il se méfiait d'elle depuis le début et sa position n'avait pas changé. Même s'il la tenait pour une véritable alliée, le sourcier savait que la voyante servait parfois leur cause d'une façon très personnelle. En d'autres termes, quand elle pensait l'aider, il lui arrivait souvent de jeter des pots de banane sur son chemin. De plus, elle avait ses propres objectifs. Il ne se voilait pas la face. Avoir donné l'épée à Samuel en était un très bon exemple. Et en ce moment même, Shota avait en tête un but bien précis et pas altruiste du tout. Comme l'élimination à bon compte pour elle de sa rivale Sis.
Richard, dit la voyante d'un ton très doux. « Tu as entendu la description du calvaire qui nous attend. Toi seul peux empêcher cette catastrophe. J'ignore pourquoi il en est ainsi, mais c'est comme ça nous devons nous y faire. »
La compassion de Shota et son sincère désir de neutraliser l'ordre impérial ne suffit pas à convaincre Richard de l'aménager. Tu cries sur tous les toits que l'ordre est un fléau et tu affirmes que je suis le seul capable de vaincre Jagang. Très bien. Mais dans ce cas, pourquoi as-tu troqué des informations précises contre l'arme dont j'ai besoin pour triompher? Tu m'as fait chanter et j'ai dû céder.
Il n'y a jamais eu de chantage, le coupa Shota, désireuse de ne pas laisser s'envenimer les choses. C'était un marché équitable, Richard, et de toute façon, face à ce qui t'attend, l'épée ne te servirait à rien.
Une excuse minable pour faire oublier que tu l'as confiée à Samuel. La voyante plissa le front d'agacement.
Si je ne l'avais pas fait, les sœurs de l'obscurité seraient réunies à l'instant même où nous parlons, et elles disposeraient du pouvoir d'Orden. Qui sait? Elles auraient peut-être déjà ouvert une des boîtes, amorçant le processus visant à nous livrer pieds et poings liés aux gardiens. Si le monde des vivants disparaît, à quoi te servira l'épée de vérité? On dirait bien que Samuel a son corps défendant à empêcher un cataclysme.
N'oublie pas qu'il a utilisé mon épée pour capturer Rachel et pour tuer aux trois quarts mon pauvre Chase.
Richard, si tu réfléchissais pour une fois dans ta vie. L'épée a servi notre cause en nous faisant gagner du temps, même si le prix à payer pour ça nous paraît à tous exorbitant. Que vas-tu faire du répit dont nous bénéficions grâce à Samuel? Si tu avais ta fichue épée ici et maintenant, elle ne t'aiderait pas beaucoup face à un ennemi comme l'ordre. Comme tu le sais, quiconque détient l'arme peut se faire passer pour un véritable sourcier. En revanche, un authentique sourcier n'a pas besoin de la lame pour être ce qu'il est.
C'était exact, dut reconnaître Richard. Cela dit, ça ne changeait rien au fond du problème. À présent, Samuel semblait être passé sous les ordres d'une voyante inconnue qui semblait prête à tout pour atteindre ses objectifs des plus égoïstes. Mais à quoi rimait tout le remue-ménage que Richard faisait au sujet de cette épée? Des milliers d'innocents périssaient sous les coups de l'ordre, et la lame magique ne suffirait pas à arrêter le massacre. L'arme en soi n'était rien. Seul comptait l'esprit de l'homme qui la maniait. Richard était un authentique sourcier. En d'autres termes, c'était lui l'arme véritable. Samuel ne pouvait rien contre ça. Certes, mais le sourcier se serait senti mieux s'il avait eu le début d'une idée menant à la victoire de son camp. Nietzsche ne s'éloignait toujours pas, tenant son terrain sous le regard embrasé de la voyante. Se méfiant également de Chota, elle était prête à intervenir au premier geste suspect. Richard dévisagea un moment sa fidèle amie, puis il se tourna vers Chota. « Et que dois-je faire, selon toi ?» Comme d'habitude, sans qu'il l'ait vraiment vu se déplacer, Chota était maintenant si près de lui qu'il sentait son souffle sur la peau de son cou. Une odeur de lavande flottait dans l'air, apaisant presque instantanément le sourcier.
« Comprendre !» murmura Chota. « Voilà ce que tu devrais faire, selon moi. Comprendre en profondeur. »
Alarmé par l'assaut soudain et subtil de la voyante, Richard se dit qu'il était urgent pour lui de s'écarter d'elle et de ne plus jamais la laisser approcher autant. Hélas, il ne parvint pas à bouger ni à se dégager quand Chota lui souleva le menton du bout d'un index. Aussitôt, il tomba à genoux, dans la boue. La pluie tombait régulièrement, martelant les toits et les auvents. De grosses gouttes s'écrasaient dans les flaques déjà formées, et les éclaboussures ainsi projetées maculaient les murs des bâtiments, les charrettes renversées et les centaines de jambes de la foule qui grouillaient un peu partout. Dans le lointain, des officiers beuglaient des ordres. Maigres comme des squelettes, de malheureux chevaux restaient stoïquement immobiles sous le déluge. Près de Richard, quelques soldats riaient grassement d'une plaisanterie qu'ils étaient seuls à avoir entendue. Un peu plus loin, d'autres hommes parlaient entre eux sans grand enthousiasme. En fond sonore, des grincements indiquaient qu'une caravane de chariots approchait. Pour l'annoncer, ou simplement parce qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher, des chiens aboyaient sans interruption. Sous le ciel plombé, la scène entière avait une teinte brunâtre qui évoquait l'atmosphère de certains cauchemars. Jetant un coup d'œil sur sa droite, Richard vit une longue rangée d'hommes agenouillés dans la gadoue. Imbibés d'eau, leurs vêtements semblaient avoir doublé de volume. Le teint cendreux, ces prisonniers, car ça devait en être, écarquillaient les yeux de terreur. Dans leur dos, béait une longue et étroite tranchée qui semblait donner directement accès au royaume des morts. Les sangs glacés, Richard tenta de bouger, changer de position afin de pouvoir se relever et se défendre. Ce faisant, il s'avisa que ses poignets, retournés dans son dos, étaient liés avec ce qui semblait être des lanières de cuir. Quand il tenta de se libérer, ses liens lui cisaillèrent la chair, confirmant son analyse. C'était bien du cuir. Donc, une matière susceptible de casser. Mais quand il tira de toutes ses forces, rien ne se produisit. Être impuissant, les mains attachées dans le dos. Des souvenirs enfouis dans la mémoire de Richard refirent surface, le poussant au bord de la panique. Autour de lui, des soldats allaient et venaient sans cesse. Qu'ils portent une cuirasse, des pièces d'armure ou de simples peaux de bête, tous ces guerriers étaient bardés d'armes qui n'avaient rien d'ornemental. Ces hommes arboraient simplement les outils indispensables de leur profession. Des couteaux à manches de bois ou de corne, des épées à la poignée enveloppées de cuir afin d'être plus fermement tenues, des masses d'armes hérissées de piques assez longues pour traverser de part en part la tête d'un homme. Si peu sophistiquées qu'elles soient, les maîtres armuriers du Nouveau Monde auraient souri d'une fabrication pareillement rudimentaire. Ces armes se révélaient très efficaces quand il s'agissait de massacrer des gens sur un champ de bataille, ou d'exécuter des civils sous la pluie. L'absence totale d'ornement, un choix sans doute délibéré, ajoutait encore à leur aspect angoissant. Un grand nombre de guerriers de l'ordre étaient chauves. Les autres, grâce à la pluie, auraient pour un temps les cheveux un peu moins sales et gras. Avec les anneaux passés à leurs oreilles et à leur nez, et les tatouages sombres qui leur couvraient le visage, certains soldats paraissaient porter un masque, dont les motifs se retrouvaient parfois sur leurs torses et leurs bras nus. Mais c'était bel et bien la véritable apparence de ces brutes, ou plutôt de ces bêtes sauvages, qui s'étaient dressées sur les pattes de derrière parce qu'elles se prenaient pour des êtres humains. Pour que l'eau ne lui brouille plus la vision, Richard secoua frénétiquement la tête. Dans le mouvement, il s'aperçut qu'il y avait aussi des prisonniers sur sa gauche. Certains sanglotaient, tandis que des colosses de l'ordre forçaient de nouveaux arrivants à adopter la même position humiliante. La panique se répandait à une vitesse folle tout au long de la rangée.
Elle gagna Richard, menaçant de lui faire perdre toute sa lucidité. Ce n'était qu'une illusion. Il le savait. Un nouveau mauvais tour que lui jouait Chota. Pourtant, les détails étaient criants de vérité. La pluie glaçait la peau du sourcier, ses vêtements gorgés d'eau pesaient des tonnes et il frissonnait comme s'il était vraiment en train de claquer des dents sous une averse. En plus de l'odeur de la boue, une puanteur innommable planait dans l'air, un mélange de sueur, d'urine, de fumée et de chair en décomposition qui donnait envie de vomir tripes et boyaux. Les cris des autres condamnés, puisqu'il s'agissait bien de ça, résonnaient pour de bon aux oreilles de Richard. Malgré une vaste expérience de l'horreur, il n'aurait pas pu imaginer des hurlements de terreur exprimant en même temps un désespoir sans limite. Beaucoup d'hommes tremblaient convulsivement et ce n'était pas à cause de la pluie glacée. Richard, désormais, n'était plus qu'un futur supplicié parmi tant d'autres. Une victime anonyme qui irait bientôt rejoindre des milliers d'autres innocents impitoyablement exécutés. Illusion ou non, le sourcier était là où il avait le sentiment d'être. D'une manière ou d'une autre, Chota s'était arrangé pour l'envoyer à Ab Initia. En toute logique et avec ce qu'il savait de la magie, c'était impossible, donc il imaginait la scène. Une pierre pointue s'enfonçait douloureusement dans son genou gauche et il ne parvenait pas à changer assez de position pour que ça cesse. Un détail si secondaire prouvait que la scène était réelle. L'imagination ne s'attardait pas sur des éléments insignifiants tels que celui-là. Richard partageait pour de bon le sort des citadins d'Ab Initia. S'il n'imaginait pas le moment présent, n'avait-il pas tout au contraire rêvé les événements qui l'avaient conduit jusque-là? La visite de Chota n'était-elle qu'une diversion censée le protéger de la terrible réalité? Le sort d'oubli, cette chaîne de flammes, avait peut-être irrémédiablement altéré sa mémoire? À moins qu'il ait tout simplement tenté de fuir une réalité insoutenable. Alors qu'il s'était réfugié dans un univers imaginaire, comme un enfant qui redoute l'obscurité, le stress de sa situation avait pu le ramener sans douceur dans un monde hélas bien réel et concret. Bien sûr, il aurait juré que la réalité était ailleurs qu'ici, mais il arrivait parfois, en s'éveillant d'un rêve, qu'on le croit plus authentique que le véritable monde. Après avoir dérivé dans le sommeil, il était logique de connaître une période de désorientation, si courte fut-elle. Justement, la confusion se dissipait déjà dans l'esprit de Richard. Pragmatique de nature, il entreprit aussitôt de se rappeler comment, très exactement, il était arrivé ici, agenouillé au bord d'une tranchée, sous une pluie battante. Le souvenir semblait à sa portée, mais il s'éloignait dès qu'il avait le sentiment d'être sur le point de s'en emparer. C'était atrocement agaçant, comme lorsqu'on ne parvient pas à se remémorer un mot ou un nom propre pourtant terriblement familier. Tournant la tête sur la gauche, Richard vit un soldat saisir à pleine main les cheveux d'un homme et lui renverser la tête en arrière. Le supplicié hurlait et se débattait, mais il n'avait pas une chance d'échapper à son sort. Alors que ses cris donnaient la chair de poule à Richard, le boucher de l'ordre plaça la longue lame d'un couteau sur la gorge de sa victime. Révulsé par ce spectacle, le sourcier tenta de nouveau de se convaincre que rien de tout ça n'était réel. Mais il distinguait les irrégularités de la lame mal aiguisée, entendait toujours les cris du prisonnier et voyait parfaitement le rictus mauvais qui étirait les lèvres du bourreau. Quand la lame trancha la chair, le geyser de sang qui jaillit de la gorge du prisonnier n'aurait pas pu être plus réaliste. Maintenant sa proie sans effort, le soldat passa la lame dans la plaie une seconde fois pour trancher plus profondément et achever le travail, quitte à décapiter à demi sa victime. Propulsé par les ultimes pulsations du cœur de l'homme, le flot de sang rappelait irrésistiblement celui d'une glorieuse fontaine. Une odeur âcre monta aux narines du sourcier. Non, non et non, rien de tout ça n'était vrai. Mais pourtant les convulsions de l'homme, sa chemise qui s'imbibait de sang, ses yeux révulsés, tout était hurlant de vérité. En un ultime effort, alors que sa gorge n'était plus qu'une plaie béante, le moribond réussit à dégager sa jambe droite qui rua désespérément dans le vide. Sans lâcher sa victime, le soldat attendit qu'elle s'immobilise, puis l'attirant par les cheveux,
il la fit basculer dans la tranchée. Il y eut un bruit sourd quand la dépouille s'écrasa dans la boue. Le cœur battant, la chamade Richard crut qu'il allait vomir. Une nouvelle fois, il tenta de se libérer les mains et s'entailla simplement un peu plus les poignets. Les lanières étaient en place depuis si longtemps que leur contact contre sa peau était une torture qui lui faisait monter les larmes aux yeux. Heureusement, la pluie chassait ses larmes en même temps que la sueur glacée qui ruisselait de son front. Torture ou pas, le sourcier continua à lutter contre ses liens. À présent, c'étaient les tendons de ses poignets que le cuir entaillait. Soudain, Richard entendit crier son nom, par une voix qu'il reconnut en une fraction de seconde. « Callan !» Levant la tête, Richard eut l'impression que le temps s'arrêtait. Après une longue quête et tant de défaites, son regard croisait enfin les magnifiques yeux verts de sa bien-aimée. Toutes les émotions qu'il avait jamais eues dans sa vie s'unirent en une explosion de joie et de désespoir mêlée qui le laissa vide de toute énergie et sans défense contre l'extraordinaire douleur qui lui vrillait jusqu'à la moelle des os. Une si longue séparation. Et se retrouver alors qu'il franchirait bientôt le voile en partance pour le royaume des morts. Car il allait mourir, c'était une certitude. Ce qu'il voyait de Callan, chaque détail de son visage, jusqu'à la minuscule ride au coin de ses yeux dont il avait oublié l'existence, venait de le convaincre qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Les cheveux de Callan, toujours aussi beaux et disciplinés, même sous la pluie. Ses yeux verts à nul autre pareil, comme s'il venait d'un autre monde. Le son unique de sa voix qu'il entendait chaque nuit dans ses rêves, la plus belle musique de l'univers, au point qu'il enrageait chaque matin de devoir quitter le seul monde où son aimé était encore avec lui. Non, il n'imaginait rien de ça. Et si Callan était réel, sa fin imminente l'était aussi.
« Richard !»
cria Callan en tendant les bras vers son mari. Décidément. Cela ne pouvait pas être le fruit de l'imagination de Richard. Dès qu'il l'avait entendu, la voix de Callan l'avait frappé à cause de sa limpidité, de son intelligence, de son charme et de sa grâce envoûtante. Aujourd'hui, rien ne subsistait de cette harmonie, toutes ses qualités balayées pour céder la place à une angoisse incontrôlable. Reflétant la détresse qu'exprimait sa voix, le visage si doux et délicat n'était plus qu'un masque d'horreur et de désespoir. Des larmes roulaient sur ses joues, presque aussitôt chassées par la pluie. Richard se pétrifia d'angoisse. Callan si proche de lui et pourtant si loin. La découvrir ici, piégée dans le camp ennemi.
« Richard !»
Tendant toujours les bras, Callan essayait d'atteindre son mari, mais elle n'y parvenait pas. Un soldat à la tête rasée la ceinturait, l'empêchant de courir vers la tranchée. Richard finit par voir que les boutons du chemisier de sa femme avaient été arrachés, offrant sa merveilleuse poitrine à la concupiscence des soudards de l'ordre. Mais Callan s'en fichait. Elle voulait que Richard la voie, comme si c'était la dernière chose importante en ce monde, et elle voulait le voir, lui, pour graver ses traits dans sa mémoire et avoir un viatique qui l'aiderait à survivre lorsque tout serait accompli. La gorge nouée, des larmes aux yeux, Richard murmura le nom de sa bien-aimée. Après avoir reçu un tel choc, c'était tout ce qu'il avait encore la force de faire. Indomptable, Callan luttait toujours pour échapper aux grosses mains crasseuses du soldat.
« Richard, Richard, je t'aime, par tous les esprits du bien, je t'aime !»
Pour mieux retenir sa proie, le soldat lui passa un bras autour du torse. Joignant l'utile à l'agréable, il en profita pour prendre entre le pouce et l'index un des tétons de la jeune femme et le tordre vicieusement. Pervers jusqu'au bout, il changea légèrement de position, histoire que le condamné voie bien ce qu'il faisait. Un cri de douleur et de surprise s'échappa des lèvres de Callan. À part ça, elle ignora le soldat et hurla de nouveau le nom de son mari. Fou de rage, Richard essaya encore de se relever. Il devait aller rejoindre Callan. Hilar, le soudard, regarda le prisonnier lutter pour se remettre debout et glisser dans la gadoue. Richard savait qu'il n'aurait pas de seconde chance. S'il voulait sentir une dernière fois le corps de Callan contre le sien, c'était maintenant ou jamais. Alors qu'il avait presque réussi à se redresser, un soldat lui décocha dans le ventre un coup de pied si violent qu'il s'en plia en deux de douleur. Pour faire bonne mesure, un autre homme lui flanqua un formidable coup de pied à la tempe. Alors que les sons devenaient diffus à ses oreilles et que sa vision se brouillait, Richard mobilisa toute sa volonté pour ne pas perdre conscience. S'il s'évanouissait, il ne verrait plus qu'Alan, et c'était bien la dernière chose au monde qu'il voulait. L'image de cette femme était comme une source à laquelle il désirait s'abreuver jusqu'à la dernière seconde de son existence. Emplis-toi les yeux et le cœur de ce que tu ne verras bientôt plus. Bon sang! Il devait échapper à ce cauchemar, retourner dans cet autre monde où son désespoir au moins n'était pas tout à fait total. Alors qu'il luttait pour reprendre son souffle, un soudard saisit le prisonnier par les cheveux et le redressa de force. La respiration toujours bloquée par la douleur, du sang coulant sur un côté du visage, Richard leva les yeux et put les poser de nouveau sur Callan. Elle était si belle, même avec ses vêtements trempés et ses cheveux lourds d'humidité. Être si près d'elle sans pouvoir la serrer dans ses bras était une torture. La réconforter, la protéger, lui assurer que tout irait bien. Mais un autre homme la serrait dans ses bras, et elle ne parvenait pas à se dégager. Posant les mains sur les seins de sa proie, le soudard les pressa jusqu'à ce que Kala ne puisse s'empêcher de crier de douleur. Elle se débattait, mais le colosse n'en avait cure, riant de ses vains efforts tout en défiant Richard du regard. Kala luttait contre le soldat. En même temps, elle l'ignorait superbement, comme si son existence importait moins que celle d'un papillon à l'autre bout du monde. Les faits et gestes de ce chien ne comptaient pas. Un seul être valait qu'on lui accorde de l'attention, Richard, dont l'existence s'achèverait bientôt. « Richard, je t'aime et tu me manques tellement. Esprit du bien, aidez-le, je vous en prie, par pitié, que quelqu'un vienne le secourir. » Sur la gauche de Richard, le condamné tenta d'échapper à la lame de son bourreau, mais il ne recula pas assez et l'acier lui trancha net la gorge. Le cri d'agonie du malheureux s'acheva sur d'ignobles gargouillis. Paniqué comme jamais dans sa vie, Richard n'avait pas la première idée de ce qu'il devait faire. La magie! Il pouvait invoquer son don! Mais comment faire? Son pouvoir ne lui obéissait pas, pourtant par le passé, il lui avait plus d'une fois sauvé la mise. La colère! Jusque-là, son don avait toujours réagi à ce stimulus. Le traitement qu'affligeait le soldat à Callan suffisait amplement à éveiller la fureur de Richard. L'arrivée d'un autre soudard qui entreprit lui aussi de tripoter sa femme transforma sa colère en folie furieuse. Un brouillard rouge voila sa vision. Mobilisant jusqu'à la dernière fibre de son être, le sourcier tenta d'amener son don à la surface de sa conscience. Serrant les dents, il se concentra comme jamais, en attente de l'explosion de pouvoir qui serait à la hauteur de sa rage. À présent, il savait très exactement que faire. La magie frémissait en lui, si proche qu'il la sentait presque crépiter au bout de ses doigts. Cette force réduirait en bouillie les soldats. La tempête qui s'annonçait sèmerait la mort et le désespoir dans les rangs de l'ordre impérial. Richard s'abandonna à la sensation de chute vertigineuse qui l'envahissait. Il sombrait dans un puits de pouvoir sans rien pour le retenir, et il en ressortirait bientôt plus puissant que jamais. La pluie tombait toujours à verse, comme si elle tentait d'empêcher l'incendie pourtant imminent. Aucun éclair ne jaillit pour aller foudroyer l'homme qui ceinturait Callan. La justice imminente ne frapperait pas sa cible. Pourtant, si le sourcier avait vraiment un pouvoir, c'était le moment ou jamais qu'il se manifeste. De sa vie, Richard n'avait jamais été dans une situation si dramatique. Et rien ne l'avait rendu plus furieux et ivre de vengeance que les ignobles attouchements imposés à sa femme par deux brutes indignes de vivre. Pourtant, rien ne se passait. Le salut restait hors de portée. Richard aurait tout aussi bien pu être né sans le don. Il n'y avait plus rien en lui. Pas la moindre étincelle de magie. Richard eut le sentiment que le monde s'écroulait autour de lui. Il implora le temps de ralentir, afin de lui laisser une chance de trouver une solution, mais tout sembla s'accélérer, bien au contraire. Les événements s'enchaînaient à une allure folle.
Qu'il était injuste de mourir ainsi, sans avoir eu la moindre chance de vieillir aux côtés de Callan. Alors qu'il l'aimait plus que tout au monde, il n'avait jamais eu l'occasion de passer simplement du temps près d'elle, dans la paix et la tranquillité. Il aurait voulu rire et sourire avec elle, la tenir dans ses bras, traverser paisiblement la vie, s'asseoir près d'un bon feu avec elle par une soirée d'hiver, la sentir près de lui, au chaud et en sécurité, parler avec elle de leur avenir, des choses importantes à leurs yeux. Il devait avoir un avenir. Quelle injustice! Richard demandait simplement à vivre sa vie. Et voilà qu'il allait mourir dans cet endroit affreux, pour rien, en plus de tout. Après des années de combat en première ligne, il n'était même pas fichu de crever les armes à la main. Au lieu de périr dans un incendie, toute la gloire des flammes, il allait mourir noyé dans son sang, et dans la boue, pour ne rien arranger, entouré par ses pires ennemis et sous le regard désespéré de sa femme. Callan ne devait pas voir ça. Sinon cette image la hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Il refusait de lui laisser de lui cette vision sinistre qui effacerait toutes les autres. Richard tenta une nouvelle fois de se lever. Presque tous les hommes agissaient ainsi juste avant le coup de couteau. Le soldat qui le tenait lui tira des coups de pied dans les mollets. Richard sentit à peine la douleur, tant il était déjà loin de certaines réalités de ce monde. Une seule chose importait. Libérer Callan des griffes de ses deux tortionnaires. Alors qu'il la pelotait, elle ne renonçait pas à lutter, mais ils étaient trop forts pour elle. Richard essaya encore de briser ses liens et réussit seulement à s'entailler davantage les poignets. Comme un animal pris au piège, il n'avait plus l'ombre d'une issue. Ses mains s'engourdissaient et il ne sentait déjà plus le sang chaud qui coulait le long de ses doigts. Il ne voulait pas mourir, mais cette simple volonté de vivre ne suffirait pas à le sauver. Pour échapper à la mort, il devait agir. Certes, mais comment ? Jusque-là, la colère lui avait toujours donné accès à son pouvoir, mais il n'y avait plus rien en lui qui ressemble de près ou de loin au don. Callan !
Emporté par la terreur et la panique, Richard ne pouvait plus s'opposer à l'impitoyable logique des événements. Il ne parvenait pas à reprendre le contrôle de son esprit et de son corps, et c'était normal parce que tout lui échappait. Jusqu'à cet instant, il avait toujours cru avoir une influence sur sa vie. Quand on se préparait à vous égorger comme un mouton, toutes ces illusions pathétiquement humaines se dissipaient en un clin d'œil. Dans le jeu de la vie et de la mort, il n'existait pas de règles et tout se passait bien trop vite pour qu'on puisse simplement comprendre son propre destin.
Callan, Richard, Richard, je t'aime plus que tout au monde. Tu es tout ce qui compte pour moi depuis la minute même de notre rencontre.
Callan ravala les sanglots qui menaçaient de la réduire au silence.
Richard, j'ai tellement besoin de toi.
Et moi, je vais te décevoir, parce que je ne suis pas assez fort pour vaincre la mort. Un soldat prit soudain Richard par les cheveux.
Non !
Cria Callan une main tendue.
Par pitié, non ! Que quelqu'un vienne à son secours, cela ne peut pas finir ainsi !
Le soudard se pencha vers sa victime et lui sourit.
Ne t'inquiète pas, mon gars. Je veillerai sur elle en personne. Tu peux me faire confiance.
Par pitié, non !
Gémit Richard.
Par les esprits du bien, il faut que quelqu'un l'aide !
S'écria Callan. Ses appels ne seraient pas entendus. Elle le savait. Richard n'avait pas une chance. Et elle en était réduite à implorer un miracle. Plus que tout le reste, ce calvaire imposé à Callan déchirait les entrailles de Richard, attisant encore les flammes de sa colère. Aucun être humain ne devrait jamais être condamné à assister ainsi à la fin de l'être qu'il aimait plus que tout. Un témoin impuissant, le cœur serré et l'âme dévastée.
« C'est qu'elle est bien roulée, la garce !»
dit le soldat. Il lâcha Richard et s'approcha de Callan avec une lenteur délibérée. Non, décidément les miracles n'existaient pas et cette affreuse scène en était bien la preuve.
« S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal !»
gémit Richard. Le bourreau qui se tenait derrière lui eut un ricanement triomphal. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. Callan était la seule femme que Richard eût jamais aimée, la personne en ce monde qui comptait le plus pour lui et la seule qu'il chérissait plus que la vie elle-même.
Sans elle, il n'existait pas vraiment. Agissant plutôt à la manière d'un automate, elle était tout pour lui. Et si elle disparaissait, il ne serait plus qu'un fantôme. Pareillement, s'il n'était plus, la vie de sa femme deviendrait un désert. Près de Callan, des dizaines d'autres femmes, également ceinturées par des soldats, imploraient qu'on ne tue pas leur mari. Ces malheureuses criaient les mêmes mots d'amour, les mêmes suppliques, les mêmes serments balayés par la réalité. Et partout, des soudards torturaient les condamnés en décrivant ce qu'ils feraient sous peu à leur compagne. Un des hommes agenouillé sur la droite de Richard réussit à se relever à demi. Histoire de le calmer, un soldat lui décocha dans le ventre un coup d'épée pas assez profond pour le tuer, mais suffisamment appuyé pour le contraindre à attendre son tour de mourir sans bouger ni parler. L'air hébété, l'homme baissa les yeux sur la masse rougeâtre qui sourdait lentement de la plaie, glissant hors de son corps avec des ondulations de reptile. Ses propres entrailles, condamnées à finir dans la boue comme un vulgaire bas morceau destiné à nourrir les chiens. L'épouse du supplicié cria si fort que les cieux, s'ils étaient le moins du monde intéressés au sort des hommes, auraient dû s'en ouvrir en deux d'abomination. L'homme placé à gauche de Richard venait d'être égorgé à son tour. Comme tous les condamnés, il eut quelques convulsions, puis s'immobilisa pour l'éternité. Son travail terminé, le bourreau poussa le cadavre dans la tranchée, une ultime formalité qui dut lui coûter pas mal d'efforts si on en jugeait par ses halètements. Richard entendit le bruit sourd que produisit le cadavre en s'écrasant dans la boue, ou sur un autre mort, c'était impossible à dire. Des gémissements et des gargouillis montaient de la tranchée, beaucoup de prisonniers n'étaient pas encore tout à fait passés de l'autre côté du voile.
« À ton tour, mon gars !» dit le soldat qui tenait Richard. « J'ai hâte d'en avoir terminé, tu sais. Dès que tu seras dans ton trou, j'irai rejoindre ton adorable épouse. Callan, c'est ça ? Ne tronche pas les sangs, mon vieux. Elle n'aura pas le temps de pleurer quand je m'occuperai d'elle. Elle m'accordera toute son attention, tu peux me croire. Et quand j'aurai eu mon plaisir, d'autres camarades viendront prendre ma place entre ses jambes. »
Richard aurait donné 10 ans de sa vie pour pouvoir briser la nuque de ce salaud.
Pense à tout ça pendant que ton âme putride sombrera dans le puits glacé de la mort. Tu sais ce qui t'attend au fond, mon gars. Le gardien qui s'occupera de toi jusqu'à la fin des temps. Tu ne dis pas merci? Pourtant, nous sommes attentionnés, non? Une éternité de souffrance, n'est-ce pas ce que méritent les déchets d'humanité dans ton genre? Quand je pense à tout ce que mes compagnons et moi avons souffert pour venir apporter la lumière du Créateur et la justice de l'ordre à une bande de mécréants comme vous. Votre façon de respirer est déjà une offense au Créateur et à la face de tous ceux qui le vénèrent. »
Peut-être pour se donner du cœur à l'ouvrage, l'homme se plongeait tout seul dans un juste courroux.
« Sais-tu ce que j'ai sacrifié pour venir sauver l'âme des dégénérés comme toi ? Au pays, ma famille meurt de faim pour qu'on puisse ravitailler correctement les troupes. Mon frère et moi, nous sommes engagés pour défendre nos convictions et notre foi. Ensemble, nous avons marché vers le nord pour servir le Créateur et apporter sa lumière aux pécheurs. As-tu idée du nombre de batailles que nous avons dû livrer et du nombre de camarades que nous avons vus tomber ? Quand vous nous avez envoyé des magiciennes et des sorciers, la glorieuse armée de l'ordre n'a pas failli. Pourtant, vous n'avez pas reculé devant aucune horreur, bande de chiens. Mon frère est devenu aveugle à cause d'un de vos sortilèges. Les poumons brûlés, il a attrapé des infections qui l'empêchaient de tenir debout. Nous l'avons laissé mourir seul, derrière nous, afin de continuer le combat. C'était la bonne décision. Mais penses-tu qu'elle fut facile à prendre ? Ta Callan et les femmes des autres condamnés vont maintenant se sacrifier pour nous donner un peu de plaisir. Une maigre compensation après tout ce que nous avons subi. Ouais, tous les efforts consentis pour apprendre à des sauvages qu'il existe un ordre supérieur et des lois incontournables. Un jour, ta Catin viendra te rejoindre dans les étendues désolées du royaume des morts. Mais avant, nous profiterons un peu d'elle. Ne l'attends pas trop vite, mon gars, parce qu'elle risque de passer pas mal de temps dans un de nos bordels de campagne. Quand nous touchons une belle pouliche, d'habitude on les réserve plutôt aux officiers, nous la faisons durer aussi longtemps que possible. Ta femme sera très demandée, croisant un expert. Dans l'armée de l'ordre, le repos du guerrier n'est pas un vain mot. Nous ne sommes vraiment pas à la fête chaque jour.
Le type agita son couteau devant les yeux de Richard.
Rien que les exécutions, tu ne peux pas savoir ce que c'est crevant.
Grâce à ta femme, mes copains et moi retrouverons toute notre ardeur à la tâche. C'est pas formidable ?
Une suite d'absurdités. Richard avait du mal à croire que des hommes puissent tenir sincèrement des propos pareils. Mais il y avait de plus en plus de fanatiques comme celui-là, des maîtres du mépris et de la haine, ravis de détruire la vie jour après jour. Richard ravala les arguments qui lui venaient à l'esprit. Les brutes de ce genre détestaient qu'on évoque en leur présence la raison, la loyauté à la vie et la bonté, des valeurs que ces soudards avaient justement juré de détruire. Sachant que toute polémique aggraverait encore le sort de Callan après l'exécution, Richard choisit de s'en aller en silence. Tout ce qu'il pouvait encore faire pour la femme qu'il aimait. Voyant que le condamné n'avait pas mordu à l'hameçon, le soldat eut un rire gras et envoya un baiser à Callan.
« J'arrive, ma belle. Juste le temps de te divorcer d'un mari encombrant. Et à nous les folles étreintes. »
Cet homme était un monstre, pensa Richard. Et bientôt Callan serait impuissante entre ses mains. Un monstre. Était-ce encore une de ces prédictions biaisées de Chota? La voyante s'était longtemps opposée au mariage entre Richard et Callan, sous prétexte, si on l'écoutait, que la mère inquisitrice accoucherait d'un monstre. Comme tout le monde, Richard avait pensé à un enfant mâle doté du don de son père et du pouvoir de sa mère, à un inquisiteur, soit à un des pires fléaux que la terre pouvait porter. Mais une fois encore, Chota avait peut-être eu raison sans pour autant mettre dans le mille. Après tout, il en avait été ainsi pour toutes ses autres prédictions. Exact dans les grandes lignes, mais à côté du problème en ce qui concernait les détails. Toute cette histoire au sujet d'un monstre visait-elle en réalité ce qui risquait maintenant d'arriver? Bien entendu, la prédiction de Chota avait pour source une union entre les deux jeunes gens. Mais sans ce mariage, les événements qui atteignaient aujourd'hui leur dénouement, au moins pour Richard, se seraient-ils jamais déroulés? Livré aux soldats de l'ordre, Callan tomberait peut-être enceinte, et son enfant serait bel et bien un monstre, engendré par un monstre. La mort n'était pas le pire destin possible dans cette affaire. Le destin de Callan serait 100 fois plus cruel, surtout si elle devait devenir une reproductrice pour cette horde de sauvages.
« Richard, je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas? C'est tout ce qui compte.
Je t'aime aussi. »
Richard aurait voulu trouver mieux. Des propos définitifs, assez justes et touchants pour être gravés dans le marbre ou répétés pour les siècles des siècles. Mais au fond, qu'y avait-il de mieux à dire avant de tirer sa révérence? Callan, je t'aime. Et qu'un vent mauvais emporte tout le reste très loin, dans des pays où les hommes comme Jagang dictaient les lois et les faisaient appliquer par des brutes.
Je sais, Richard, je sais.
Murmura Callan avec un sourire qui parvint une fraction de seconde à se communiquer à ses yeux. Richard vit la lame d'un couteau passer devant les siens. Il recula d'instinct, mais son bourreau avait prévu cette réaction et il lui plaqua un genou entre les omoplates, l'empêchant de fuir l'arme. Puis, il lui inclina la tête en arrière.
« Fais comme si ces hommes n'étaient pas là !»
cria Callan.
« Richard, regarde-moi et oublie leur présence. Pense à moi, pense à la force de mon amour pour toi. »
Richard comprit ce que voulait faire Callan.
« Tu te souviens de notre mariage ? Richard, je le revois comme si c'était hier. »
Elle faisait son possible pour qu'il s'en aille sur des pensées agréables.
« Je me rappelle le jour où tu m'as demandé de t'épouser. Je t'aime, Richard. Tu te souviens de la cérémonie ? Et après, dans la maison des esprits ?»
Callan voulait aider Richard à s'évader du présent qui ne représentait plus qu'une poignée de secondes pour lui. Hélas, elle venait de le faire repenser à la prédiction de Chota au sujet du monstre.
« Comme c'est touchant !»
railla le soldat dans le dos du condamné.
« C'est une sacrée passionnée, pas vrai? Elle doit être géniale au lit !»
Richard aurait aimé tordre le cou de l'homme, mais il ne trahit pas sa colère. Son bourreau voulait qu'il meure en suppliant ou en l'insultant, et il n'était pas question de lui faire ce plaisir, une façon de combattre jusqu'au bout les soudards de Jagang.
« Richard, tu te souviens de notre premier baiser ?»
Malgré la gravité de sa situation, Richard eut un petit sourire.
Fidèle à sa légende, Callan ne se souciait pas du destin qui l'attendait. Concentrée sur Richard, elle tentait d'adoucir sa faim. Adoucir sa faim. Ainsi, on y était.
La dernière heure de Richard Rall. Plus rien après. Et l'oubli au bout du chemin.
Tout était terminé. Il ne vieillirait pas avec Callan. Demain, elle serait seule à voir le soleil se lever. En un sens, c'était la fin du monde.
Richard, je t'aime. Regarde-moi. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais aimé que toi. Tu m'entends? Rien d'autre n'a d'importance. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, je t'en prie, je veux t'entendre dire que tu m'aimes.
Richard sentit la lame se positionner très précisément sur sa carotide.
Je t'aime, Callan. Pour toujours. Et je n'ai aimé que toi.
Vous allez me faire pleurer,
cracha le bourreau. Quand tu finiras de crever dans ton trou, pense que je serai en train de la ploter. Je vais la violer, mon gars. Quand j'en serai là, t'auras rendu l'âme, mais je veux que t'imagines tout ce que je ferai à ta dulcinée. Rien ne m'arrêtera, pauvre crétin, parce que c'est la volonté du Créateur. Tu aurais pu t'incliner devant l'ordre. Mais il a fallu que tu résistes, attaché à tes vils péchés. T'as cru malin de te détourner de la justice et de la vérité, pas vrai? Aujourd'hui, tu vas mourir pour expier ton crime, mais ton châtiment ne s'arrêtera pas là. Attends donc d'être entre les mains du gardien. Pendant ton voyage vers l'obscurité, je veux que tu saches que ta Callan sera une de nos plus populaires catins. Si elle survit, elle aura peut-être un fils, et il deviendra un grand guerrier de l'ordre. Sois certain qu'il viendra un jour ici même pour cracher sur ta sépulture et te maudire. Grâce à nous, il saura que tu l'auras empêché de consacrer sa vie aux autres et au Créateur. Pense à tout ça en agonisant, alors que ton corps commencera à refroidir. Pendant ce temps, je prendrai du bon temps avec ta femme, qui me réchauffera, tu peux me croire. Ouais, mon gars, je voulais que tu saches la vérité avant de mourir.
À l'intérieur, Richard était déjà mort. La vie et le monde sombraient dans le néant. Tant de choses perdues. Et le triomphe éternel des tenants de la mort et du néant sur les défenseurs de la joie et de l'amour.
Je t'aime pour toujours, Callan. Et tu as illuminé mon existence.
Richard vit sa femme hocher la tête. Elle l'avait entendu et murmurait encore son amour pour lui.
Comme elle était belle.
Et combien elle aurait de chagrin jusqu'à la fin de ses jours. Une fraction de seconde, le temps s'arrêta, et les deux amoureux se regardèrent, conscients que le monde était sur le point de cesser d'exister. Richard Rall sur le départ, vaincu et désespéré. Callan Amnell, contrainte de rester en arrière, et aussi absente au monde que si elle s'en était allée aussi. Richard voulut crier de rage. Mais la lame s'enfonçait déjà dans sa gorge, le réduisant au silence pour toujours. Cette fois, c'était la fin de tout.